tartine que vous allez suivre est une rediffusion.
Les archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Inclassable, imprévisible, insaisissable, tantôt conciliant, tantôt radical, tantôt va-t-en-guerre. Son histoire est celle d'un personnage qui jusqu'au bout aura été insondable, même pour ses proches. Muammar Kadhafi, après plus de 42 ans à la tête de la Libye, aura marqué l'histoire contemporaine de ce vaste ensemble. Suite de notre série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Après être parvenu à faire plier à lui tout seul, dès son accession au pouvoir, tous les mastodontes qui exploitaient le pétrole dans son pays, Muammar Kadhafi, qui vient de lancer sa révolution, d'instaurer en Libye sa troisième théorie universelle, son socialisme arabe, a en cette année 1973 une occasion exceptionnelle qui lui est offerte de relancer son grand projet d'unité arabe qu'il ne parvient toujours pas à réaliser depuis 4 ans. La guerre de Kippour lancée par Sadat contre Israël pour récupérer les territoires conquis par Tsahal en 1967, en particulier la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan, a manifestement suscité une réaction de solidarité de la part des nations arabes qui se réunissent à Koweït pour adopter des sanctions cette fois-ci contre le monde occidental afin qu'elles fassent pression sur Israël. L'arme utilisée est celle du pétrole. Mercredi 17 octobre 1973, à la stupéfaction générale, les ministres des pays exportateurs de pétrole, arabes, Algérie, Libye, Koweït, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Irak, réunis à Koweït, décident de réduire chaque mois de 5% leur production pétrolière jusqu'à la fin de la libération des territoires occupés par Israël. Une décision lourde de conséquences qui va bouleverser l'économie mondiale. Pour les grandes puissances, c'est la récession. La croissance est touchée au cœur. La brutale augmentation du prix du pétrole porte un coup très dur aux économies occidentales dont la croissance repose largement sur une consommation exponentielle d'or noir. Du coup, l'investissement s'effondre et le chômage s'envole. On compte plus d'un million de demandeurs d'emploi en France.
La crise que nous traversons est la plus sérieuse, la plus durable, la plus éprouvante que le monde ait connue depuis les années 30.
Dans cette crise, bien que Sadat n'ait pas jugé utile d'informer Muammar Kadhafi avant de se lancer dans la guerre contre Israël, le leader libyen, vexé, en colère dans un premier temps, va timidement envoyer quelques armes pour soutenir la coalition égypto-syrienne. Mais il est également très actif dans ce bras de fer contre les nations occidentales et Israël. La pression sur les cartels du pétrole, il l'a déjà commencé avant même la décision de ses pairs de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Il a décidé de sanctionner lui aussi le monde occidental. Lui, il a carrément nationalisé tout le secteur pétrolier, malgré la colère des États-Unis, qui menacent même d'envoyer sur place des forces pour protéger les intérêts des firmes américaines. Et c'est fort de ce bras de fer, encore une fois remporté contre les mastodontes de l'or noir, qu'il se rend au 4e sommet des non-alignés qui se tient à Alger. Muammar Kadhafi s'y illustre, naturellement par ses positions.
La majorité des pays du tiers-monde ont des liens de différentes natures avec des blocs en dehors du tiers-monde. Les trois quarts des non-alignés sont intellectuellement colonisés par le monde occidental. Ce que nous devrions faire, c'est nous engager à ce qu'aucun de nous ne se lie économiquement à des monopoles internationaux ou ne se laisse entraîner militairement dans aucun des deux grands blocs. Je sais que certains d'entre nous sont associés économiquement et militairement aux puissances impérialistes de l'Est et de l'Ouest. Notre groupe ne peut absolument pas adopter une attitude politique commune, même aux Nations Unies. Je soutiens sans réserve toutes les propositions faites ici, mais je sais que toute action est impossible. Ce que j'espère, c'est que nous nous engagions à ne pas nous opposer politiquement entre nous, et je crois que cet espoir aussi sera déçu. Nous mettrons fin à cette conférence et nous nous séparerons comme si nous nous étions rencontrés sur une place et avions bavardé.
Au cours de ce 4e sommet, Kadhafi et Fidel Castro, le leader cubain, se sont ouvertement heurtés. Kadhafi l'a traité de vulgaire satellite exploité par l'impérialiste soviétique. Le leader Maximo lui a rappelé qu'il ne devait pas oublier que les armes avec lesquelles Cuba a écrasé les mercenaires dans la bataille de la baie des Cochons et s'est défendu contre les États-Unis d'Amérique étaient arrivées d'Union soviétique et que lui n'était pas un enfant gâté d'une révolution un peu trop facile qui vit sur un puits de pétrole et dont les liens avec les deux blocs ne sont pas vraiment coupés. Kadhafi encaisse. Il en faut plus pour le déstabiliser.
Oui, autant qu'on ait pu le comprendre, les propos du colonel Kadhafi étant traduits de l'arabe en anglais puis en français, la Libye va continuer à vendre du pétrole à la France, sans restriction. Pour le reste, les journalistes n'ont pas pu obtenir beaucoup de précisions. Hier soir, le chef d'État libyen, vous le savez, a oublié de venir à la conférence de presse qu'il devait donner. Ce matin, il était bien au rendez-vous, mais sa conception très personnelle des conférences de presse a coupé court à la curiosité. Tendu, crispé, vêtu tout de noir, le colonel Kadhafi a commencé d'abord par demander qu'on éteigne toutes les lumières de la salle. Puis il a prévenu, vous n'avez droit qu'à une seule question. Louise de Béa a quand même réussi à lui demander tout à la fois s'il était en bonne santé, puisque hier soir il avait éprouvé le besoin de se faire faire un check-up, et s'il était toujours décidé à bouder le sommet des pays arabes à Alger.
Monsieur le Président, comment, à votre avis, l'Europe peut-elle aider à la recherche d'une solution au Proche-Orient ?
Tout d'abord, il faudrait que l'Europe arrête l'émigration de ses citoyens vers la Palestine. Ensuite, il faudrait qu'elle rouvre ses portes pour le retour de ceux qui ont déjà collaboré avec l'agression là-bas pour qu'ils rentrent chez eux. C'est le problème du Moyen-Orient, n'est-ce pas ? L'Europe doit également faire la différence entre l'agressé et l'agresseur.
Les excentricités de Kadhafi ont fini par l'éloigner des dirigeants de la sous-région. Même Bourguiba, qui après l'avoir méprisé s'est rapproché de lui au point de signer son idée de fusion, est forcé de tourner le dos à cette fusion panarabe qu'il leur propose.
Je suis contre toute intervention en Afrique. Mais à chaque État indépendant en Afrique ou ailleurs, chaque État indépendant a le droit de demander de l'aide d'autrui. Il est du droit de tout État indépendant de s'allier avec un autre État. Jusqu'à présent, je ne vois pas d'agression extérieure contre un État africain. Mais ce qui se passe actuellement, c'est l'intervention d'armées étrangères, et notamment au Tchad et au Chaba, pour mater des mouvements populaires. Nous ne pouvons en aucune façon considérer qu'il y a eu agression contre le Zaïre. Ce sont des Katangais qui veulent réintégrer leur pays. Il n'y a pas eu d'agression étrangère. Nul n'a le droit de les combattre. Sauf le président Mobutu qui a le droit de prendre, d'adopter la position qu'il estime convenable. La même chose au Tchad. Et la même chose au Sahara occidental. Au Sahara occidental, au contraire, il y a une tentative d'annexion du Sahara occidental à la Mauritanie et au Maroc. Donc ces pays qui ont été aidés par la France, le Maroc et la Mauritanie, n'ont pas été agressés, au contraire, elles veulent s'élargir. Elles ont des tendances expansionnistes.
En Afrique subsaharienne, ce discours séduit. Le continent noir semble désormais plus sensible à son charme, mais surtout à ses pétrodollars qu'il distribue sans compter. Il va y installer son influence, y apporter son soutien à différents mouvements nationalistes. Ainsi, au titre de la lutte anti-impérialiste, il verse en janvier 1971 $1 million à la Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole, nouvellement indépendante. Il aide également financièrement et militairement le régime de Sékou Touré pour repousser les mercenaires qui essaient de le renverser. Et même pour contenir l'expansion soviétique, il soutient en 1972 contre l'Éthiopie la revendication somalienne sur l'Ogaden.
Nous sommes contre la solution de ce problème érythréen par la force. Nous rencontrons sans arrêt les deux côtés. Nous les conseillons de négocier. Ce sont toujours nos efforts. dans ce sens.
En réalité, dans ce conflit de la Corne de l'Afrique, Muammar Kadhafi ne se contente pas de jouer les médiateurs. Au contraire, il soutient très clairement les nationalistes érythréens contre Haïlé Selassie.
Mais réellement, c'est vrai, nous avons construit la révolution érythréenne contre Haïlé Selassie. Notre objectif, c'était de promouvoir les facteurs révolutionnaires en Éthiopie afin d'abattre le régime Haïlé Selassie. Et nous avons même poussé à la révolution contre Haïlé Selassie.
Et
notre appel a eu une réponse positive en Éthiopie et le régime Selassie est tombé.
Muammar Kadhafi est également l'un des principaux soutiens d'Idi Amin Dada d'Ouganda qui vient de renverser Milton Obote, considéré comme proche d'Israël. Le Tchad revêt pour lui un intérêt stratégique important. C'est sa zone de sécurité. Il ne peut admettre qu'il y ait à N'Djamena un gouvernement qui lui soit hostile et qui risque de le placer en situation de dépendance vis-à-vis de l'Égypte ou d'Israël. Il faut influer sur le paysage politique tchadien. C'est pourquoi François Ngarta Tombalbaye, le premier président du Tchad, va subir ses assauts répétés. Il va utiliser les arguments les plus insolites, accusant par exemple le chef de l'État protestant d'entretenir les relations avec Israël ou encore d'opprimer les musulmans. Il dénonce aussi l'oppression exercée par la population du Sud, noire, animiste, chrétien, sur les populations du Nord composées de chameliers islamisés. Et c'est pourquoi il va soutenir le Front de Libération Nationale, le Frolinat. Il installe d'ailleurs très officiellement la première armée révolutionnaire tchadienne d'Abbasidique à Tripoli. Ce qui amène le régime de Tombalbaye à rompre les relations avec Tripoli. Mauvaise idée, qui va plutôt amener le chef de l'État libyen à intensifier le processus de déstabilisation. Devant tant de pressions, de conflits qu'il entretient dans le pays, Tombalbaye décide finalement de rompre ses relations diplomatiques avec l'État hébreu. Un geste qui va aussitôt amener Kadhafi à signer un traité d'amitié avec le Tchad. Mais ce parchemin ne marque pas la fin de sa visée expansionniste sur le pays. Le plus dur est à venir. Pour le moment, en ce début d'année 1975, c'est un putsch perpétré par ses compagnons de lutte, ses amis du Conseil de la Révolution, Abdelmonem Al-Ouni, ministre de la Défense, et Omar El-Meichi, ministre de la Planification, qui lui offre l'occasion d'organiser une importante purge de son régime. 126 officiers sont arrêtés. C'est dans ce climat de tension que paraît le premier tome de son livre vert, qui évoque essentiellement ce qu'il appelle la solution du problème de la démocratie. Il y évoque notamment les vices du fonctionnement d'un État dirigé d'en haut par un représentant élu. Cette fois-ci, il promet de faire des Libyens des heureux propriétaires de leur logement et de mettre fin à toute spéculation et corruption. La méthode est parfois un peu violente. Par exemple, le fait de lutter contre la spéculation immobilière qui fait flamber les prix en interdisant l'achat de terrains vendus par l'État s'ils servent à la construction de maisons locatives ou encore la confiscation de maisons construites grâce au crédit public si celles-ci ne sont pas occupées par leurs propriétaires. Résultat, plus personne ne construit. En réalité, cette période est celle où le régime commence à basculer, à se durcir, puisqu'il règne une sévère censure. L'étudiant d'hier, qui se nourrissait de nombreuses lectures révolutionnaires et des idées des grands penseurs, interdit la propagation des livres. La peinture, la musique et le théâtre sont inexistants. Le cinéma se limite à la propagande. Pourtant, malgré ces changements, cette radicalisation qui frappe essentiellement la bourgeoisie, les étudiants et les intellectuels, la grande masse semble ne pas se plaindre. Au contraire, Muammar Kadhafi continue de moderniser la Libye. L'économie marche, les chantiers industriels avancent. Et il fait également appel à une main-d'œuvre étrangère bien ciblée, notamment tunisienne, soudanaise, maltaise et tchadienne. On parle de plus en plus de la Libye comme une véritable réussite économique et sociale. L'argent du pétrole accroît les revenus de la population. Dans le Maghreb, les Libyens jouissent d'une place privilégiée. Kadhafi, en quelques années, a construit d'importantes infrastructures, des hôpitaux et des écoles. C'est sûr, les Libyens vivent largement mieux que sous l'ère du roi Idriss. Les bidonvilles ont disparu au profit d'immeubles modernes. Jean-Emmanuel Pondy, auteur de Vie et mort de Muammar Kadhafi, quelle leçon pour l'Afrique?
90% de la population libyenne avait accès à l'eau. ils avaient 100% de soins de santé pris en charge par l'État. Ils avaient l'eau et l'électricité gratuites.
Les Libyens ne sont manifestement pas les seuls à profiter de cette manne pétrolière, puisque Kadhafi, qui a décidé de se faire l'avocat des pays africains à la conférence islamique de Lahore au Pakistan, propose pour la première fois une mesure exceptionnelle en faveur des nations du sud du Sahara. Il demande aux pays producteurs de pétrole de leur appliquer des tarifs préférentiels. Il entreprend, dans la foulée, une véritable offensive économico-diplomatique sur l'Afrique noire. En plus de la signature de nombreux accords de coopération avec les pays subsahariens, Tripoli crée une quarantaine de sociétés mixtes, une dizaine de banques et de nombreux centres culturels. Il dit vouloir mettre un terme à la dépendance du continent envers les puissances occidentales. Les conditions de l'aide libyenne sont très avantageuses et dégagées de toute considération idéologique ou religieuse. L'action économique libyenne est menée par le biais de deux organismes. La Libyan Arab Foreign Bank, chargée des prises de participation bancaire, et la Libyan Arab Foreign Investment Company, pour ce qui est investissement divers. Même si parfois les projets ne sont pas très bien ficelés et sont quelquefois mornés, un bon nombre doit sa survie ou sa disparition à la qualité de la relation de Kadhafi avec les dirigeants des pays bénéficiaires. Malgré ces incohérences, la Libye devient l'un des principaux pivots des relations interafricaines en matière d'aide économique et financière. Elle investit aussi bien au Zaïre de Mobutu, 100 millions de dollars dans le secteur minier, que dans le Bénin de Mathieu Kérékou, ou encore au Burundi, dans la construction notamment de l'université de Bujumbura. Elle est également en Guinée de Sékou Touré, en Gambie, au Gabon, en Centrafrique, au Cap-Vert. Le colonel Kadhafi est partout. Jean-Emmanuel Pondy, auteur de Vie et mort de Muammar Kadhafi, quelle leçon pour l'Afrique?
C'était tout sauf désordonné, mais il faut dire que la marque de fabrique de Muammar et Kadhafi était quand même la surprise dans toutes les actions qu'il entreprenait. C'est pour ça que ça donnait cette impression. Mais si vous regardez bien, il avait bien organisé l'investissement en Afrique, sans aucun doute. Il avait des sociétés qui s'occupaient justement d'investir et qui investissaient de gros montants. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple très très simple. Il avait créé un ensemble de portefeuilles dont le but était d'investir en Afrique. Par exemple, la Libya Africa Portfolio, LAP. Qui disposait d'un capital de 8 milliards de dollars. Donc 5 devaient être consacrés exclusivement à l'Afrique. Ça, c'est un seul groupe comme ça. Il y avait la Libyan Foreign Investment Company et la Banque Sahélo-Sahélienne. Bon, tout cela, c'était des grosses boîtes qui investissaient lourdement dans des joint ventures, c'est-à-dire des actions économiques conjointes, jumelées, avec des pays comme le Mali. Ça s'appelait Malibia. Ils avaient 100 000 hectares sur lesquels ils avaient, par exemple, planté des produits agricoles qu'ils fructifiaient ensemble. Donc c'était quand même des investissements sérieux, des investissements lourds et qui allégeaient beaucoup dans la vie quotidienne des Africains.
Tripoli va devenir le passage obligé de tous ceux qui se découvrent une âme de révolutionnaire, de militant progressiste. Le chef de la Jamaïria donne sans compter. Tripoli devient aussi la capitale de la subversion d'où partent de nombreuses actions de déstabilisation. Ainsi, grâce à l'argent du pétrole, il peut prêter 150 millions de dollars à l'Angola d'Agostino Neto, honorer la facture de 300 millions de dollars d'armes livrées par Moscou à Mengistu d'Éthiopie, offrir 5 millions de roupies au maire de Port-Louis, juste pour irriter Sir Siwasagur Ramgoolam, le premier ministre mauricien. De nombreux mouvements nationalistes bénéficient de son soutien, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Muammar Kadhafi va très rapidement devenir la plaque tournante, le principal financier des mouvements à la fois de lutte contre l'apartheid, mais également indépendantiste. Il a aussi des visées expansionnistes sur ses voisins, notamment le Tchad et le Niger. La nouvelle étape de sa révolution va, dans les mois qui vont suivre, modifier considérablement la vie des Libyens, et pas seulement la leur. Rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI.
Vous allez suivre est une rediffusion.
Les archives d'Afrique. Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Si les matières que nous achetons sont gelées, les matières que nous achetons avec le prix du pétrole sont gelées, nous sommes prêts à geler notre prix. Comment vous demandez à une partie de geler ses prix alors que l'autre partie augmente tout, sans arrêt les prix?
En moins d'une dizaine d'années, à la tête de la Libye, Muammar Kadhafi a changé le visage de son pays. Même s'il n'est pas parvenu à faire l'unité arabe, à réaliser la fusion dont il rêvait avec l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, même si son idée d'unité arabe n'avance pas, sa révolution socialiste islamique a permis d'améliorer la condition de vie de ses compatriotes. Ses succès contre les mastodontes du secteur pétrolier lui ont donné le moyen de moderniser la Libye. Le régime est dur, la répression forte, mais les masses populaires semblent contentes. Et l'opposition muselée. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Muammar Kadhafi.
Actuellement, je ne suis pas président, je suis secrétaire d'un congrès populaire. Réellement, c'est vrai, le gouvernement il y aura un congrès populaire qui aura un secrétariat et un comité populaire qui ressemble qui prendront la place du gouvernement local. Et de l'ensemble de ces petites structures locales se formera l'autorité générale au niveau du pays. Et ainsi de suite, chaque congrès, c'est-à-dire au niveau de chaque circonscription, aura un congrès, un secret et un comité populaire. Il n'y a plus de président. Le président, c'est le peuple.
8 ans après son arrivée au pouvoir, Muammar Kadhafi, qui a écarté la majorité des officiers avec qui il a réalisé son putsch de 1969 et installé un régime autoritaire, entre dans la nouvelle étape de son socialisme kadhafien. La Libye de 1977 s'appelle désormais Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste. Kadhafi abandonne toute fonction officielle tout en gardant les pleins pouvoirs. Il devient le guide. Le peuple est désigné comme l'unique détenteur du pouvoir qu'il exerce grâce aux syndicats et aux comités populaires de base. Malgré la dureté du régime, les nombreuses arrestations et les réformes draconiennes qu'il impose, le petit peuple continue de le soutenir puisqu'il voit son niveau de vie amélioré.
Nous ne pouvons en aucune façon considérer qu'il y a eu agression contre le Zaïre. Ce sont des Katangais qui veulent réintégrer leur pays. Il n'y a pas eu d'agression étrangère. Nul n'a le droit de les combattre. Sauf le président Mobutu, qui a le droit de prendre, d'adopter la position qu'il estime convenable. La même chose au Tchad. Et la même chose au Sahara occidental. Au Sahara occidental, au contraire. Il y a une tentative d'annexion du Sahara occidental à la Mauritanie au Maroc. Donc, ces pays qui ont été aidés par la France, le Maroc et la Mauritanie, n'ont pas été agressés, au contraire, elles veulent s'élargir. Ce sont des tendances expansionnistes.
Après ses échecs au Maghreb, Kadhafi a intensifié ses relations avec l'Afrique subsaharienne, où il se montre très généreux, notamment avec les mouvements et groupuscules nationalistes. Il soutient financièrement et entraîne les nationalistes rhodésiens, notamment les combattants de Dabaningi Sithole et Abel Muzorewa. Il va appuyer Jerry Rawlings, le tombeur en 1981 de Ila Liman au Ghana. Il soutiendra également Thomas Sankara lors de son putsch contre Jean-Baptiste Ouédraogo en Haute-Volta. Idi Amin Dada, pour avoir décidé de rompre ses relations avec Israël, va recevoir de quoi payer ses militaires en août 1976 et des millions pour redresser l'économie ougandaise. Nelson Mandela.
J'ai aussi invité le leader Kadhafi dans ce pays. Et je fais ça parce que notre autorité morale nous oblige à reconnaître que nous ne devons pas abandonner ceux qui nous ont aidés durant les heures les plus sombres de l'histoire de notre pays.
Muammar Kadhafi va être l'un des principaux soutiens de l'ANC de Nelson Mandela dans la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Mais ce soutien au mouvement de libération ne se limite pas au sud du Sahara.
Je n'ai pas reçu un membre du gouvernement, j'ai reçu le président Ouldada lui-même il y a depuis peu. Je suis toujours l'ami du président Ouldada. Nous tendons la main, l'aide, une main amicale au peuple frère de Mauritanie.
Mais
je m'oppose absolument avec le président Mokhtar Ouldada, mon cher ami, sur son désir d'annexer une partie du Sahara avec le Maroc. Je considère que c'est une haute personnalité, que c'est un homme sage, mais je considère que sa décision de vouloir annexer une partie du Sahara ne contient aucune sagesse. C'est parce que j'aime beaucoup la Mauritanie que je tiens à ce que le président Mokhtar Ouldada se retire de cette erreur. Je suis sûr que la Mauritanie perdra dans ce problème et ne gagnera rien.
Autre pays dans la ligne de mire de Muammar Kadhafi, l'Égypte. Il reproche à Sadat d'entamer les négociations avec Israël. Pour lui, Sadat est un traître à la cause arabe.
Ce que Sadat a fait n'avance ni ne recule la cause au Moyen-Orient, n'avance ni ne la recule. Les choses fondamentales fixes sont toujours au même point. Actuellement, tout le monde a vu que les tentatives de cette nature ne peuvent pas résoudre un problème grave. Peut-être que Sadat est le premier de ceux qui sont convaincus de ce résultat maintenant. Certainement, il doit regretter, franchement, il est de l'intérêt du monde, de la paix internationale, que les Arabes puissent récupérer leurs droits et qu'un terme soit mis à l'agression définitivement. Sinon, la paix mondiale internationale restera menacée. Cette tension pourrait mener à une guerre atomique.
Fin juillet 1977, pour la deuxième fois, Kadhafi organise une marche sur le Caire pour manifester contre les négociations israélo-égyptiennes. Marche encore une fois stoppée à la frontière.
La cause palestinienne est celle d'un peuple expulsé de ses terres en 1948, d'où une situation qui n'a cessé de s'aggraver. En effet, les intrus ont occupé les maisons, les fermes et les villes édifiées par le peuple palestinien, ayant fondé un état factice, tout en perpétrant leur persécution jusqu'à ce jour. En parlant des intrus, je parle d'Israël qui a pris la place du peuple palestinien par l'injustice et l'agression. Israël se compose d'Israéliens, ou plus exactement de ressortissants de plusieurs États du monde. S'ils regagnent leur pays d'origine et dissolvent leur organisation militaire, ils n'ont pas à craindre qu'on leur fasse la guerre. Si par contre ils s'obstinent à occuper la Palestine et à chasser ses habitants, la confrontation sera inéluctable, que nous l'ayons voulu ou non.
Kadhafi prend également parti pour la cause palestinienne en apportant son soutien au mouvement le plus radical, le Fatah Conseil révolutionnaire d'Abu Nidal. Et en réponse au soutien financier des États-Unis d'Amérique à Israël dans ses opérations en territoire palestinien, Kadhafi organise à Tripoli un front de refus d'Israël, regroupant l'Algérie, la Syrie, l'Irak, le Yémen du Sud et l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Il devient ainsi un peu le leader de cette cause.
La guerre continue et la responsabilité des Israéliens. Ce sont eux qui continuent à mener la guerre. La guerre nous est imposée par Israël. Israël a été encouragé parce que appuyé par les États-Unis et l'Europe occidentale.
Vous voulez dire, si j'ai bien compris, puisque vous venez de dire qu'il n'y a pas de problème entre Arafat et la Libye, que par exemple vous accepteriez que Yasser Arafat s'arrête à Tripoli pour discuter avec vous ?
Il se peut que Arafat vienne en Libye en tant que citoyen palestinien, mais nous ne le recevons pas que dans cette qualité.
Oui, mais alors, mon colonel, pourquoi votre attitude actuelle à l'égard de Yasser Arafat, qui passait justement pour un modéré et non pas un combatif et qui préférait la négociation que la guerre ?
Nous n'avons aucun problème avec Arafat. Arafat, lui, il a des problèmes avec les autres Palestiniens qui l'ont pourchassé du Liban. Nous n'étions pas responsables de ce qui est arrivé à Arafat. Et nous estimons que nos relations avec Arafat est une page du passé maintenant.
Mais tout de même, il y a quand même l'Égypte qui est impliquée, Monsieur le Président, dans cette affaire. Moi, ce qui me frappe, j'étais avec Yasser Arafat lorsqu'il est arrivé en Égypte. Ce qui m'étonne, c'est que vous analysez la situation comme l'ont analysé un certain nombre de gens qui pensent que c'est une victoire pour Yasser Arafat, mais qui ne pensent pas que c'est peut-être une défaite pour Israël, ce rapprochement.
J'affirme qu'il n'existe aucune solution, qu'il aille en Égypte ou qu'il aille même à la planète Mars. Il n'y a pas de solution. C'est un cul-de-sac. Oui, je le crois, parce que le peuple palestinien ne peut retourner en Palestine que par la guerre. Il est obligé à se battre, et les Israéliens vont être la cause de la Troisième Guerre mondiale.
Ses positions sur la question palestinienne sont claires. La guerre.
J'estime que ceux qui sont arrivés après 48. Ceux qui sont arrivés de l'Europe, de l'Asie, et qui se sont groupés en Palestine pour créer Israël, ces gens doivent retourner à leur pays respectif. Et qu'un État palestinien qui regroupe les Palestiniens, les Arabes et Juifs. Le mot palestinien ne veut pas dire les Arabes seulement. Mais le mot palestinien veut dire les Arabes et les Juifs qui vivaient dans le même pays, en Palestine, ensemble, côte à côte. Mais les habitants qui sont arrivés après 48, la Seconde Guerre mondiale, et qui existent toujours sur ces terres, ce sont des envahisseurs, des racistes colonialistes qui ont envahi la terre. Comme le peuplement raciste blanc qui a occupé l'Afrique du Sud et la Namibie. En Afrique australe. C'est ça la solution. Il est de l'intérêt du monde, de l'humanité, d'appliquer cette solution. Ou alors, sinon, vous Européens, devez reconnaître que vous êtes en train d'opprimer jusqu'à présent les Juifs qui vivent parmi vous. Ce qui fait que cette oppression a fait qu'ils émigrent de leur pays et qu'ils aillent en Palestine pour l'occuper. Il y a une grande émigration même de l'Union soviétique. L'Union soviétique dit non, je n'opprime pas les Juifs. Mais si le monde reconnaît qu'il y a actuellement une campagne répressive contre les Juifs qui les oblige à partir en Palestine, ou alors ils dénigrent, ils disent non, il n'y a pas de répression contre eux. Dans ce cas-là, dans ce dernier cas, il n'y aura plus de prétexte à l'émigration des Juifs de leur pays respectif, originel, pour aller en Palestine. Non, pas pour d'autres raisons que par le fait d'être juif. Alors dans ce cas-là, les musulmans aussi, si on appliquait la même logique, les musulmans doivent se concentrer dans un pays, les chrétiens qui sont des minorités qui vivent dans d'autres pays doivent aussi se concentrer quelque part. Et ainsi de suite.
Parmi ces juifs qui sont maintenant en Palestine, il y en a beaucoup qui sont venus des pays arabes et aussi de la Libye. Est-ce qu'ils devraient revenir en Libye ?
Oui,
ceci est correct. Ils doivent retourner.
S'ils sont libyens, ils doivent retourner en Libye.
Ils seraient traités comment ?
Et comment Kayfa sayu'amaloun ? Comme des citoyens libyens. Vous n'êtes pas sans savoir que les musulmans sont se sont installés en Espagne pendant 8 siècles. Pourquoi ils ont été expulsés de l'Espagne? Les Arabes musulmans ont existé en Italie pendant 250 ans. Il y a plus de 300 mosquées en Sicile. Pourquoi vous les avez chassés de là-bas?
Cette posture vis-à-vis d'Israël inquiète les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique. Surtout que Muammar Kadhafi non seulement a entrepris d'armer ses populations, mais également de nombreux mouvements terroristes, et qu'il lorgne de plus en plus sur le Tchad voisin pour éloigner la France et s'installer dans ce territoire stratégique sur le plan militaire. Des velléités expansionnistes qui vont quelque peu embraser certaines régions du monde dans les mois qui vont suivre, notamment avec des actions terroristes et une violente guerre au Tchad ou encore des tentatives de déstabilisation au Niger. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Muammar Kadhafi. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivrons la conversation sur cet autre espace en vous donnant rendez-vous sur l'antenne pour la suite la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de Radio France Internationale. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI.
Sirao.